T'as dit, c'est fini les vacances ?
Ouais, je suis rouillé, j'allais ne pas remettre notre gain avant qu'on parle.
Ah oui, mais c'est con. Ce serait quand même vraiment dommage que les gens nous entendent pas, ça leur manque tellement.
C'est vrai. On a vu quelques messages quand même.
Tu sais toujours toi qui les vois ces messages.
Nous, non, nous, on les voit vous pas. Avez fini.
Mais on sait que tu les écris. Hein. Je sais pas combien il y a de comptes, Manuel.
Un chatbot.
Mais on sait très bien qu'il les écrit. Moi, je les ai bloqués tous ces comptes, donc je les vois pas.
Ça va, Manuel ?
C'est possible. Oui, ça va et vous ?
Oui. C'est Manuel qui a un sujet aujourd'hui.
Incroyable.
Ouais.
Comme quoi les vacances.
Mais vous allez voir que. Enfin, incroyable. Au vu du sujet, il reste dans une zone de confort, on va dire.
Et si j'ai bien compris, Manuel va nous parler de bricolage. On va parler de poncer comme un CEO.
De poncer comme un CEO.
Ah ! Je me suis trompé de podcast, désolé.
Bah, c'est la pièce d'à côté.
Ça pourrait tellement être le cas bientôt, en plus, chez Influx.
Oui, je voulais qu'on fasse ce podcast pour la rentrée, c'est très bien, je pense, qui est inspiré du livre de Byron Morrison qui s'appelle Think Like a CEO.
Waouh!
Donc, super originalité.
Et j'ai compris, hein, là.
Et je n'ai pas prévu de faire un résumé du livre, si vous intéressez, allez le lire, Bande de feignasses. Mais,
eh bien, bonne année.
Mais par contre, j'ai extrait des passages qui me paraissaient intéressants.
Trop bien.
Il n'y a pas de chronologie particulière, c'est juste des trucs que j'ai notés au fur et à mesure de la lecture et qui me paraissaient intéressants.
Ça tombe très bien parce que je suis moi-même CEO.
Eh bien, bien sûr, de toi-même.
Oui.
Eh bien, c'est déjà pas mal.
Ça s'adresse à moi, du coup.
Évidemment.
Yes.
Déjà, est-ce qu'on ne commencerait pas par expliquer ce que c'est que CEO ? Parce que beaucoup confondent avec fondateur.
Oui, puis c'est peut-être pas toujours clair.
Ouais. Le terme, ça fait rêver le terme, tu vois, mais parfois, on n'imagine pas la...
Bah, c'est Chief Executive Officer, c'est PDG, quoi.
Mais ça n'a rien à voir avec le mec qui a monté ou la meuf qui a monté la boîte, quoi.
Tim Cook est CEO d'Apple.
D'accord. Steve Jobs est cofondateur.
Absolument.
Voilà. Mais non, mais c'était un point de clarification. Écoutez, je fais attention.
Merci. Tu tombes juste à chaque intervention. Pour l'instant, t'as 1 sur 1, Romain. C'est parfait.
C'est ton record, hein.
Et change pas ta stat. Parce qu'à mon avis, elle va bouger en 2024. Pour l'instant, tu tiens la corne. Le premier truc, au début du bouquin, il passe un petit moment à dire un truc qui peut paraître un peu bébête et simple, etc. Mais en gros, il dit si vous êtes CEO d'une boîte, et il met un peu de temps d'ailleurs à dire peu importe que ce soit des petites boîtes, des grosses boîtes, etc., c'est pas le sujet. La capacité à avoir l'esprit clair et à être posé est indispensable pour exercer cette fonction.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et il parle de cette capacité à être imperméable au reste du monde, à l'adversité de ce qui se passe autour, à rester calme, lucide, posé, etc., etc. Et je trouve que c'est bien de démarrer par là, parce que beaucoup de gens se retrouvent CEO justement parce que tu le disais, Romain, parce qu'ils ont été fondateurs. Et que par définition, ils sont CEO parce qu'il n'y a personne d'autre pour être CEO. Mmh. Mais si on faisait une élimination, ne serait-ce que sur ce simple critère, beaucoup de fondateurs ne devraient pas être CEO.
Et il y a d'ailleurs pas mal de fondateurs de très grosses boîtes qui ne sont pas CEO de leur boîte.
Mais bien sûr, regarde, moi je cite souvent l'exemple de Google. Mmh. Ils ont pris Eric Schmidt, qui a dirigé Google très longtemps. Et qui a écrit de très bons bouquins d'ailleurs, que je vous encourage à lire aussi, pour diriger Google, parce que les deux cofondateurs ne se sentaient pas capables de tenir la position de CEO. Mmh. Ils se sentaient tout à fait capables de réfléchir à des produits pour Google, à l'avenir de Google, à développer des branches technologiques pour Google, mais pas de diriger le mastodonte qui était en train de devenir Google sur le search.
C'est surtout que dans ton parcours, tu fais plus du tout la même chose après. Manuel, tu m'en parlais à un moment quand tu étais CEO de ton ancienne boîte Imakina. Mmh. Les responsabilités n'ont plus rien à voir avec quand tu avais démarré Imakina, où tu faisais du code, où tu étais créatif, où tu allais voir des clients. Où... Mmh. Donc, il y a un moment aussi où quand ta boîte grossit, bah, soit tu la fais stagner parce que toi, tu n'as pas envie de changer de poste et tu as envie de continuer de faire un truc qui t'éclate, soit tu nommes quelqu'un d'autre à ta place pour te dire que tu continues de faire ce qui te plaît. Mais je pense que pour ça, il faut être très humble.
C'est cette partie qui arrive peu. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il n'y a aucune honte à être le fondateur d'une boîte et de ne pas en être le CEO et de reconnaître que tu seras un mauvais CEO pour ta propre boîte. Mmh. Et en fait, être un mauvais CEO pour ta propre boîte, c'est tuer toi-même ton projet. Ce qui arrive assez peu, c'est cette étape-là. C'est de dire, je ne vais pas être un bon CEO pour ma boîte. Il faut que je passe le relais à quelqu'un d'autre.
Ou je n'ai pas envie de l'être, quoi.
Comme si c'était un critère d'échec.
Ouais.
Parce que c'est statutaire. Surtout, je le vois aux US quand tu mets
un problème d'ego.
Tu vois, ouais, voilà, c'est
un problème d'ego.
Mais après, les gens peuvent aussi avoir peur de perdre le contrôle de leur boîte. Ça peut être une crainte.
Mais c'est le cas. Mais on t'enlèvera jamais tes shares, ton pourcentage de capital, tes dividendes, etc., etc. C'est plus un problème d'ego et d'image.
Oui, mais tu peux aussi avoir peur du fait que la personne que tu vas désigner à ta place. Mmh. Va mal jouer avec ton bébé, quoi.
Mais tu peux le virer.
C'est ce qui est arrivé dans l'histoire d'Apple. Mm. Parce que même si tu n'es pas un shareholder, tu peux influencer le board et dire je suis un meilleur gestionnaire et ce mec m'encombre, il a beau être dans les fondateurs, mettez-le dans un corner. Il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles les fondateurs se retrouvent placardisés avec finalement assez peu de pouvoir. Ils n'ont plus le contrôle de leur propre boîte. Ça peut être vexatoire, oui. C'est un risque à prendre, oui, il faut faire attention. Mm. Mais en même temps, ça n'arrive pas complètement par hasard. Si ça t'arrive, c'est que tu as toi-même semé déjà des problèmes organisationnels dans ta boîte. Et ça dépend avec qui tu as levé des fonds et à quel point les fonds t'écoutent ou pas.
Mais la clarté que tu évoques, elle demande énormément d'expérience.
Je pense qu'il y a des... Il y a aussi une nature de base. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont très émotifs à ce qui se passe autour. Et il y a cette image des gens où tu pourrais voir l'immeuble brûler et ils continueraient à répondre à des emails, en fait, devant leur machine. Comme si, finalement, leur environnement les touchait assez peu par rapport à la mission qui est à mener. Et je pense que c'est une très bonne façon de se poser la question, de se dire, est-ce que je suis fait pour ça ou pas ? Si tu es très sensible à l'environnement, à ce qui se passe vraiment autour de toi, tes équipes, machin, etc., etc., ben, a priori, tu ne vas pas être un très bon CEO. Tu vas être peut-être un très bon manager d'équipe. Tu peux diriger une équipe de R&D pour penser à un nouveau produit, etc. Mais le CEO, il regarde loin devant et il veille à ce qu'on aille dans la bonne direction contre vents et marées, en fait, quoi.
C'est quoi les études? Il n'y a pas d'études pour être CEO. Comment un matin, tu te réveilles et tu te dis, tiens, ça me tombe dessus, je vais être CEO?
Si, bien sûr, le bac pro CEO.
À partir de 16 ans...
On va dire qu'il y a des cursus qui te préparent plus aux responsabilités que d'autres.
Mais tu ne deviens jamais CEO le jour 1. Tu fais pas un stage pour être CEO, tu fais pas...
Par nature, si tu crées ta propre boîte, par définition, tu es CEO au jour 1.
Mais un Tim Cook, par exemple, ce qui fait qu'il arrive CEO, c'est à la fois le travail qu'il a fait au sein de la société, le relationnel qu'il avait avec les fondateurs. Enfin, comment tu te prépares, non ?
C'est comme en politique, tu ne deviens pas président du jour au lendemain. Tu occupes des fonctions politiques et tu gravis les échelons et au bout d'un moment, peut-être, tu seras président.
Ouais, j'ai le sentiment, en fait, que... Il n'y a pas un moment où tu te dis, tiens, je rêve d'être CEO. En fait, c'est parce qu'au fur et à mesure du truc, tu vois que ça te plaît de plus en plus que de gérer, de porter un projet, etc. Et tu le viens un peu malgré toi, quoi.
Il y a plein de cas différents les uns des autres, mais je pense que quand tu as du succès dans une zone, si on prend l'exemple de Tim Cook, qui tenait vraiment la ligne de production opérationnelle de Apple, qui a dû augmenter ses volumes, faire face à l'arrivée des Apple Store, qui est passé d'une boîte qui fabriquait finalement peu de produits pour une part de marché assez faible et est devenue une boîte qui a fabriqué beaucoup de produits avec une part de marché colossale avec l'arrivée de l'iPhone et des iPods avant, etc., etc. En fait, ça, si tu ne maîtrises pas ta ligne de fabrication, tes choix de sous-traitance, ton shipment, ta logistique, etc., etc. Ça marche pas. Donc, en fait, je pense que d'abord, tu as une zone, tu prouves que tu as de la valeur dans cette zone. Mmh. Et puis, quand tu commences à maîtriser cette zone, rapidement, on va la nature ayant horreur du vide, on va étendre cette zone de responsabilité. J'ai plus en tête l'enchaînement des job descriptions de Tim Cook chez Apple, mais je suis quasiment sûr qu'il a démarré par une job description et puis qu'elle s'est étendue jusqu'à être COO de mémoire, qui était directeur des opérations. Et puis, Jobs l'a désigné comme le successeur parce que je pense aussi que Jobs se disait que Apple allait rentrer dans une phase de gestion plus que dans une phase de création et qu'il fallait un très bon gestionnaire en haut.
Okay.
De toute façon, je ne suis pas sûr que tu puisses avoir l'ambition d'être CEO d'une grosse boîte jour 1. En tout cas, je ne te le souhaite pas.
Bah, si tu as zéro expérience et que le board te nomme CEO de cette boîte, sincèrement, il faut virer le board.
Tu veux pas qu'on teste, Manuel, avec moi?
Même 24 heures, ça serait trop dangereux. Peut-être une heure. Un jour.
C'est vrai?
Ouais, un jour où il y a un blackout, c'est-à-dire il n'y a plus Internet en France. Il n'y a plus
d'électricité.
Il n'y a plus d'électricité, rien du tout. Tiens, je te donne mon badge, tu vas dans mon bureau et tout, mais
il
n'y a plus de...
Tu sais ce que je ferais?
Ouais, vas-y.
Je fais construire une centrale nucléaire afin qu'on puisse avoir les moyens, même en cas de blackout, d'avoir de l'électricité manuelle.
Comme ça, tu te parles tout seul.
Et là, tu vas me remercier.
C'est parfait. Il y a une stat dont on parle assez peu, mais il y a un peu plus de 50% des business qui meurent dans la première année. Et quand tu fais la stat à 10 ans, c'est 96% des business qui meurent.
Oh.
Donc, je pense que c'est aussi intéressant, il en parle à un moment dans le bouquin. Ça montre aussi à quel point gérer la première année, déjà tu te dis j'ai une chance sur deux.
C'est ouf.
T'as 50% de morts, c'est beaucoup hein, quand même. Hein.
Ouais. Et ça concerne quoi, les business physiques?
C'est quoi les business physiques? Les sociétés qui sont créées.
Je pense que ce que veut dire Léo, c'est est-ce que c'est une personne qui pourrait être auto-entrepreneur, aller compter dedans, ou est-ce que c'est uniquement des sociétés qui ont déjà des... C'est ça que tu veux?
Bah ouais, parce que du coup, qu'est-ce qu'on définit comme un échec?
Une boîte qui ferme, qui arrête son activité.
Ah, ils l'ont fermé, terminé.
Okay. Ils arrêtent leur activité, mais que ça soit par choix, ça marche pas assez, ça me convient pas, nanana, j'arrête, ou que ça soit par échec économique ou autre.
Okay. Bah, je te donne un exemple.
La stat est à peu près la même en France.
Ah ouais?
Ouais, lui il est américain, mais la stat est à peu près la même en France sur la première année.
J'en ai pas vu beaucoup, mais sur les 5 boîtes où j'étais très proche, il y a que Influx qui a duré plus de 3 ans et qui aujourd'hui performe, etc. Les 4 autres... J'avais participé, j'avais été. Enfin, mais elles sont toutes mortes, quoi.
Bah,
un coup, il a plus envie. Un coup, il n'y a plus assez de fonds. Un coup, il y a des levées de fonds qui se passent mal. Un coup, tu embauches mal. Et finalement, en fait, toute la trésor que tu avais, tu la claques dans des employés qui ne sont pas bons parce que tu as mal casté. Enfin, il y a tellement. Enfin, franchement, ça m'a remis à une place où je me suis dit, oh, en fait, c'est vraiment. Enfin. C'est un truc de ouf en fait de réussir de créer une boîte, d'employer des gens. Je trouve que c'est important aussi ce que tu disais Manuel quand tu disais qu'un entrepreneur, déjà c'est combien d'emplois tu crées. Enfin moi je me considère pas ultra chanceux, enfin comme Léo, enfin j'ai pas d'employés, on est enfin tout seul, même si demain on fait un peu moins de chiffres etc, c'est quand même pas pareil qu'une boîte qui doit déjà
Vous faites vivre un écosystème autour de vous, mais vous avez pas des employés au sens du payroll du terme, c'est-à-dire tu payes des feuilles de paye, des charges etc etc, mais vous faites vivre un écosystème autour de vous. C'est quand même important.
Ok.
Mais c'est pas être CEO.
Ouais, ça n'a rien à voir.
Moi, je fais essentiellement vivre Amazon. Hein.
Oui, mais ils te remercient d'ailleurs. Oui. Parce qu'ils viennent tous les jours au bureau. Je ne sais pas si tu as remarqué. Tu peux pas faire une réunion avec Léo sans qu'ils te disent hey, les gars, j'ai une livraison Amazon. Je pense que c'est plusieurs fois dans la journée même. Un autre point dont il parle assez souvent dans le livre, et qui, je pense, mérite d'être stigmatisé, c'est ce que tu ne fais pas est aussi important que ce que tu fais.
Oui.
Et on a souvent parlé de la capacité à dire non, etc., etc. Et je pense qu'on peut scorer la maturité d'une organisation à ce que ne fait pas son CEO.
Jobs disait ça aussi.
Mais je pense que c'est un conseil qui s'applique dans...
Ben, je suis d'accord avec lui.
D'accord avec Jobs ?
Peu importe le poste que tu as, enfin Manuel, tu me l'as répété tellement de fois, la meilleure chose que tu aies à faire maintenant, c'est de ne rien faire. Elle me rendait fou, cette phrase.
Mais ça, c'est parce que tu fais des conneries, sinon.
Oui, mais en même temps, oui, mais ça veut dire... Oui, mais bien sûr.
Je le dis pas à tout le monde. Mais, mais à toi, je te l'ai dit beaucoup.
Ce que ça veut dire, c'est que juste parfois, le fait de faire des trucs qui sont peut-être trop éloignés de ton objectif principal, bah, ça fait qu'à la fin, tu feras moins bien que si tu fais juste moins, mais quelque chose de dirigé, quoi.
Moi, je sais très bien rien faire et c'est ce qui m'a sauvé la vie.
Alors, ouais, attention quand même, Léo.
Enfin, rien faire pour Léo, c'est pas être devant, touche pas à mon poste. Hein.
Bah non, mais je fais le moins de choses possible.
C'est important d'expliquer
comme
ça.
Comme ça, tout ce que je fais... En même temps, les gars, en même temps, s'il y avait 19 vidéos sorties en 2023, ils croient vraiment que je branle rien. Faut être con, au bout d'un moment. Je vais m'énerver sur les gens si ça continue. Hein.
Mais il y en a. Hein.
Arrête de croire qu'ils sont cons.
Il
hein.
y en a qui pensent que tu travailles pas. Je peux en témoigner.
Oui, mais c'est pas grave.
Mais t'aimes bien leur vendre l'idée.
Non, mais en fait... je m'en fous que les gens pensent que je travaille beaucoup ou pas du tout, qu'ils pensent que je travaille pas du tout, c'est pas grave. Du moment qu'ils regardent mes vidéos, je m'en fous.
Bah, tu vois, moi on pense que je travaille pas mes vidéos et pourtant j'ai passé les 1000 vidéos sur ma chaîne. Comme quoi ça veut rien dire.
Mais ça veut pas dire que j'ai les travails.
Ça veut dire que t'en fais beaucoup.
Ça veut dire que t'en as posté. Dans ce que je voulais dire, c'est que comme je suis assez partisan du moindre effort, je fais peu de choses, mais tout ce que je fais dans la journée... un sens dans ma roadmap. Donc, j'applique la loi de Pareto. Non, c'est pas du tout la loi de Pareto. En fait. J'applique pas la loi de
Pareto. Il aurait pu me sortir n'importe quel nom.
T'appliques une loi.
J'applique pas du tout la loi.
La loi de Roberti.
J'applique la loi de Léo Duff.
Oui.
Qui dit qu'en fait, je concentre absolument tous mes efforts sur un seul et même objectif.
C'est vrai. Ah, on peut dire que tu ne te disperses pas. Ça, c'est vrai.
Je me disperse pas.
Et c'est ton objectif ?
Je perce, Manuel.
Ouais.
Fois 10.
On peut dire que tu ne lis pas en spray.
Non.
C'est quoi ton objectif ?
C'est faire de bonnes vidéos, c'est tout.
C'est un bon objectif. Hein.
Bah oui.
Il y a un autre truc qui est vachement important dont il parle dans le livre, c'est un peu la mégalomanie qui va derrière le rôle de CEO et aussi ce qu'on attribue au CEO. C'est-à-dire que dans beaucoup d'organisations, c'est rassurant de se dire « Ah ben, le CEO a forcément la réponse. » Alors qu'en réalité, non. Et je pense que pour être un bon CEO, il faut bien avoir accepté qu'il y a quand même beaucoup de paramètres de la situation qui ne sont pas sous ton contrôle. La seule chose que tu contrôles, c'est comment tu réponds à ce qui se passe. Ça, tu le contrôles. Mais dans beaucoup de cas, tu ne maîtriseras pas tous les paramètres d'une situation. Donc si tu es un contrôle freak, si tu as absolument besoin de bien connaître et tous les paramètres, d'aller dans tous les détails, d'évaluer une situation à 360 degrés avant de prendre une décision, alors ne sois pas CEO.
Ok.
C'est pas possible. Parce que la quantité de décisions que tu vas avoir à prendre et la vitesse à laquelle tu vas devoir les prendre t'empêche d'aller dans tous les détails pour prendre une décision. Donc en fait, tu fais aussi un peu de proba aiguisé avec ton expérience.
T'es obligé de prendre des risques.
Et donc, tu calcules tes risques.
OK.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et je pense que c'est très important de rappeler ça. C'est-à-dire que on a tendance à bâcher les CEO qui ont raté, notamment des retournements de boîte, etc., etc. Alors qu'en réalité, peut-être qu'ils étaient à un millimètre du truc, en fait. Tu vois, à quelques détails près, ça aurait pu être un succès extraordinaire. Mais à un moment, il faut prendre des risques.
Est-ce qu'un CEO, c'est un joueur de poker, en fait ? C'est quelqu'un qui connaît le jeu par cœur. Mais à un moment donné, si les cartes ne sont pas avec lui, les cartes ne sont pas avec lui.
Ah putain, c'est intéressant.
Il y a un peu de ça, mais ce que j'aime pas dans l'analogie, c'est que y a une... ça reste un jeu de hasard.
Oui, mais de proba quand même.
Mais je serais d'accord sur la partie probabilité, moins d'accord sur la partie hasard.
Mais il existe forcément dans la gestion d'une boîte, dans le succès que tu vas rencontrer sur le marché, dans ce que vont faire tes concurrents, il y a forcément du hasard.
C'est le timing pour moi.
Il y a des paramètres que tu maîtrises moins que d'autres, on va dire, mais ça t'empêche pas de les scorer ou de les évaluer et de voir si au final tu peux te permettre de faire ça ou pas.
Comme au poker.
Certainement, je suis pas assez fin connaisseur du poker.
L'exemple qu'on peut avoir, c'est le nombre de boîtes qui sont mortes à cause du Covid, alors que tout était prêt, tout était ok. Enfin, le nombre de restaurateurs, tu vois, qui avaient fait des prêts, lancé le restaurant et tout ça. Il y a quand même cette part, c'est vrai, de hasard où tu te dis, bah demain il y a une merde. Mais bon, ça, j'ai envie. Enfin, t'as pas besoin d'être CEO, hein. Juste besoin d'être un être humain, ça peut modifier ta journée du lendemain.
Juste un concurrent qui lance un produit au même moment, etc.
Sans que tu le vois, bien sûr, bien sûr.
Ici, trois paramètres qui m'ont marqué, moi, dans la lecture du livre, qui me paraissent intéressants, sur lesquels j'aimerais bien avoir votre réaction. Il dit, dans la vie, tout est cause ou effet. Il n'y a pas d'autre situation. Soit c'est une cause, soit c'est un effet. Donc, ne te mets jamais dans une position attentiste. Et sois conscient de la zone dans laquelle tu es. Est-ce que tu es la cause de quelque chose ou est-ce que tu es l'effet induit de quelque chose ? Et sois conscient de où tu es dans la chaîne, en fait. Ça, c'est le premier truc qu'il cite. Je vous donne les trois, comme ça, vous pouvez réagir aux trois. Focus-toi sur les choses que tu aimes. Ça augmentera ta capacité de concentration et de persévérance.
Et de bonheur.
Résilience.
C'est très important, et tu le disais toi-même tout à l'heure, Léo, en parlant de tes vidéos. Ce qui te donne ta capacité de concentration, c'est le fait aussi que tu es en train de travailler sur un sujet que tu as décidé et qui te passionne. Si on te demandait de faire une vidéo sur un sujet dont tu n'as absolument rien à foutre, si c'était une commande,
tu ne saurais pas le faire.
Ta capacité de concentration, elle serait quasiment proche de zéro.
Je le ferais pas.
Voilà. Et le troisième élément qu'il cite, c'est soyez ce qu'il appelle un prime mover, c'est bouger en premier, quoi. Ne laissez pas les choses avoir lieu. Cette espèce de temps d'observation en te disant on va laisser tout le marché y aller puis on verra bien ce que ça va donner, etc. Non, on est maintenant dans une économie où ne pas bouger, c'est régresser. Parce que le rythme du marché est déjà soutenu. Donc si tu laisses les autres bouger, même dans la mauvaise direction, tu hypothèques tes chances d'apprendre des choses.
Ce qui ne s'applique pas à toutes les boîtes, le meilleur contre-exemple, c'est Apple.
Vas-y.
Apple sont rarement les premiers à bouger. Et souvent, ils aiment bien voir quand même comment la concurrence se casse la gueule pour ensuite bouger à leur tour.
Je dirais qu'ils sont rarement les premiers à bouger publiquement.
Oui.
La réalité, c'est qu'en fait, ils testent autant de choses que les autres, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réaliser le produit en premier.
Ouais.
Mais ils ne découvrent pas le truc après les autres.
Non, mais ils font pas de mouvement, effectivement. Ils font pas de sortie de produits qui peuvent apprendre énormément de choses.
Mais en interne, ils bougent.
Sur le marché.
Ils testent des trucs. Tu peux être sûr qu'ils sont en train de tester des tonnes de trucs qui ne donneront jamais lieu à des produits. Probablement. Et peut-être que ce qu'ils vont apprendre de ces tests-là va les conduire à d'autres produits qu'ils n'auraient pas imaginés au début. Mais le tout, c'est de ne pas être immobile. Et je trouve que ces trois critères, ils sont intéressants.
Ok.
Moi, j'aime bien le... Enfin, déjà, les trois vont ensemble. Mais soit c'est une cause, soit c'est un effet. Je trouve qu'il faut l'un des deux cas. Et c'est pour ça que je fais beaucoup. On a deux stratégies complètement différentes avec Léo, mais moi j'aime bien parfois surproduire, mais pour tester plein de trucs, voir des sujets qui... Parce que le fait de faire, ça m'anime pour essayer d'approfondir ensuite ce que je viens de faire la première fois est mal. En fait, j'ai souvent moi ce truc-là. Donc ça, je... Après, le fait de bouger en premier et de ne pas rester... bon, ça, je pense que c'est aussi un état d'esprit. Ce qu'on explique là, il y a quand même des facultés qui sont difficiles à développer. Si ce n'est pas dans ta nature, il y en a qui ont besoin d'être leader et il y en a qui sont faits pour être leader. Il y a quand même deux catégories, tu vois. Et c'est ce qui fait que vous ne devriez pas être CEO si vous préférez être leader. Ça, c'est une évidence.
Moi, je suis fait pour avoir leader.
Pas mal.
De bien.
Il y a une phrase qu'il cite aussi dans le livre que j'aime beaucoup et qui dit n'ayez pas peur de poser la question face à quelqu'un, face à une situation qui ne marche pas, de dire moi, en tant que CEO, qu'est-ce que tu attendrais de moi pour résoudre cette situation ? Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'humilité, ou poser la question à tes équipes, etc. Mais c'est la suite qui est importante. Il dit, n'ayez pas peur de ne pas du tout faire ce que les gens vous répondent. Donc, ne prenez pas le fait que poser la question est un engagement de votre part à suivre la réponse.
Ouais.
Poser la question, c'est une façon de sonder leur esprit. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi ? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi ? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi ? Ça ne veut pas dire que c'est la réponse. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire. Si tu es un conformiste, si tu as besoin de faire plaisir aux gens pour te sentir bien,
t'es pas un leader.
C'est pas bon signe.
Okay.
Mais y a un nouveau problème quand t'es CEO, c'est que plus t'as de pouvoir, moins les gens te contredisent. On le voit dans les messages privés de Elon Musk. Du coup, comment
tu
fais ?
Pas que, à mon avis, dans sa vie en général, hein, il est entouré de gens qui ne le contredisent pas.
Oui, mais on le voit que dans ses messages privés, comme je vis pas avec pour l'instant.
Ah bon ?
Non.
D'accord.
Non, mais j'ai envoyé une lettre.
Il me semblait que c'était fait.
Non, pas encore. C'est en cours de procédure. Je suis en procédure de divorce avec Bill Gates.
Mmh.
Ah, j'ai une vie. Pas facile tous les jours.
Tu m'oublies pas après, hein, tu m'as dit que j'étais témoin.
Non.
Ah non ?
Non.
Plus ?
Non, non, non. Okay. Non, non, j'ai dit certainement quelqu'un d'autre, mais pas toi.
Ok. Je pensais que, en fait.
Je pense que j'ai dit Manuel, parce que Manuel adore Bill Gates.
De fou.
Du coup, comment tu fais pour instaurer ce climat dans lequel tu as du pouvoir ? Les gens le savent, tu le fais aussi savoir parce qu'il faut bien que tu montres que t'es au-dessus dans la décision. Et en même temps, les gens n'ont pas peur de te contredire.
Pour moi, c'est pas que tu as du pouvoir. Mais bon, ça, c'est ma réponse à moi. Hein. Donc, je dis pas que c'est la vérité, c'est mon interprétation des choses. Pour moi, tu as surtout des responsabilités. Et le corollaire de ces responsabilités, c'est que tu exerces le pouvoir. Et tu seras jugé sur les résultats de tes responsabilités. Mais on ne peut pas te donner des responsabilités sans te donner le pouvoir qui va avec. Et beaucoup de gens pensent que tu as le pouvoir et pas que tu as des responsabilités. La première chose que tu as quand tu as la fonction de CEO, c'est des responsabilités vis-à-vis du board et des shareholders. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mis de la thune dans cette boîte, qui sont des actionnaires de cette boîte, et tu leur dois des comptes. C'est la première de tes responsabilités. La deuxième, c'est ton engagement vis-à-vis de tes clients. Et la troisième, c'est vis-à-vis de tes équipes. Mais tu as plein de responsabilités. Pour exercer ces responsabilités, il faut que tu aies la liberté de les exercer comme tu l'entends et que tu acceptes d'être jugé sur les résultats. Ça, c'est pour moi, la définition du fait qu'on te donne le pouvoir qui va avec. Mais tu comprends que c'est plus une conséquence des responsabilités qu'un préalable.
Oui, mais naturellement, si tu es quelqu'un de très puissant, les gens vont moins être dans la contradiction.
Oui.
Quand tu regardes les messages privés d'Elon Musk, ce sont des gens qui, tu sens qu'ils se battent dans leurs messages pour avoir une place dans sa nouvelle boîte, dans son nouveau truc. Si jamais ils gagnent en pouvoir en politique, etc. Enfin, peu importe. Parce qu'il a du pouvoir et parce qu'il est riche, ils ont envie d'être bien vus par cette personne. Donc, il peut faire toutes les plus grosses conneries possibles. Ils seront de son côté.
Et aux US, c'est pratiqué un truc qui est vachement intéressant, qui est peu pratiqué en Europe, de mon point de vue. En tout cas, je vois assez peu de boîtes qui le font vraiment comme il faut. C'est ce qu'on appelle les advisory boards. Donc beaucoup de CEO se créent, ils ont un board, ça c'est les représentants des actionnaires à qui ils doivent des comptes, et à côté ils se créent un advisory board. C'est des gens qui dépendent pas d'eux, qui sont pas dans le même business, qui sont tout aussi blindés qu'eux, autonomes financièrement, etc. Et auprès desquels ils attendent d'être challengés intellectuellement.
Okay.
Et c'est comme ça qu'un Eric Schmidt s'est retrouvé dans l'advisory board de Apple.
Intéressant.
Bon, il en a honteusement pompé toute l'innovation sur l'iPhone pour aller faire Android, ce qui lui a valu d'en être viré comme un malpropre. Si ça tenait qu'à moi, je pense que je lui aurais roulé dessus. Mais,
c'est ce que vous voulez faire, Steve Jobs.
Bah, il a raison. Ça s'appelle du vol. Mais il peut y avoir des histoires comme ça, etc. Mais beaucoup de CEO s'entourent d'un advisory board, de gens qui viennent de tout autre horizon. Il peut y avoir des gens de la fonction publique, des politiques, des mathématiciens, des scientifiques, des littéraires, etc. Peu importe, du moment que ça te challenge intellectuellement et tu peux, toi en tant que CEO, aller jeter des idées sur la table et être comme ça challengé. Et ces gens sont payés pour ce poste-là. Mmh. Ils ont ce qu'on appelle des jetons de présence. Chaque réunion d'advisory board est rémunérée et donc du coup ça oblige aussi les gens qui font partie de l'advisory à bien préparer les réunions parce que bon, il faut quand même mériter sa place. Et je trouve que c'est un truc qui n'est pas assez pratiqué.
Ouais, c'est bien.
Et même dans des toutes petites boîtes, on pourrait le faire. Je sais pas, moi, t'as une toute petite boîte locale en province, etc. Prends un industriel de ta région qui a 10, 15, 20 ans d'expérience de plus que toi, assois-le autour de la table trois fois dans l'année, parle-lui de ce que tu es en train de faire et pose-lui des questions.
Pour Léo, ça serait un enfer de faire ça avec des youtubeurs.
Oh, bah, bon, ça dépend. Là,
tu vois,
ça dépend aussi. Tu le fais avec Marquez.
De quoi ?
Tu le fais avec Marquez, c'est intéressant.
Non, mais je pense qu'en fait, je le fais.
Tu le fais indirectement,
je
peut-être avec.
Je suis avant de dire une connerie. Non, je pense que je le fais pas.
Ah ouais ?
Non, ça m'intéresse pas. Enfin, je vais poser des questions très ciblées à d'autres youtubeurs qui sont en général pas du tout dans ma thématique, parce qu'il y a plein de youtubeurs qui ont beaucoup de choses à m'apporter. Maintenant, je veux pas dénaturer ce que je fais, donc je vais pas leur demander un avis global sur ce que je fais.
Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que un des premiers raisonnements qu'il faut faire quand tu veux nommer un advisory board, je vais avoir du mal à le dire, c'est il faut pas le limiter à ta fonction. Te dis pas quel autre youtubeur peut m'apporter quelque chose.
Ouais.
Dis-toi quel être humain peut m'apporter quelque chose. Mais ça peut être un créatif qui n'a rien à voir avec YouTube.
Mais ça, en fait, je le fais déjà en lisant des livres, en regardant des interviews,
ou en rencontrant
des gens, en faisant plein de choses, ou en discutant avec des gens. Mais c'est vrai que je le fais sur des choses très ciblées. Mais j'essaie d'apprendre de tout le monde.
D'autres créatifs, ça te fait plaisir. Ouais. Que ce soit des artistes, des chanteurs, ouais, des écrivains, etc. Ça t'intéresse.
Mais je trouve que souvent, le plus intéressant, c'est pas leur regard sur ce que je fais, parce qu'en général, les gens sont pas assez honnêtes.
Oui, bon, ça, c'est
pour
normal.
Donner un point de vue intéressant,
oui.
Je trouve que souvent le plus intéressant, c'est simplement leur propre travail et leur expérience.
Et leur poser des questions.
Si tu l'analyses bien, si tu leur poses les bonnes questions, tu vas apprendre plein de choses pour toi. Mais je préfère leur demander... je trouve que le meilleur moyen de parler des autres, c'est de parler de soi-même. Donc je demande aux gens de parler d'eux-mêmes.
Interroger ton advisory board sur comment ils auraient fait ceci, comment ils auraient fait cela, ou comment ils ont fait dans leur boîte pour affronter ce challenge-là, et écouter attentivement les réponses, ça a beaucoup de valeur.
Ouais.
Et ça a plus de valeur que de leur demander un avis sur ta situation personnelle dont ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants, où ça va prendre énormément de temps de les briefer pour que leur réponse soit qualitative. Mais je trouve que c'est un instrument qui est assez peu utilisé, et c'est dommage.
Ouais.
Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu contactes des entrepreneurs sur LinkedIn ? Comment tu t'y prends ?
Bah, on en connaît tous.
Des gens que tu as rencontrés, ouais,
des gens que
tu as
rencontrés, des gens que tu fréquentes des cercles d'entrepreneurs, etc., etc. Tu finis par rencontrer des gens où tu dis, ah tiens, lui, il a un peu d'avance, etc. Est-ce que je ne lui demanderai pas ? Après, souvent, les gens calibrent mal le rythme. C'est-à-dire que si tu commences à vouloir faire une réunion d'advisory tous les 15 jours ou tous les mois,
c'est pas un associé.
C'est trop, quoi.
Il faut le faire avec quelqu'un de pas trop gros, j'imagine.
Alors, son poids n'a aucun rapport.
C'est sûr de la même.
Mais oui, il faut que la distance soit raisonnable avec
Sinon, ça devient un mentor.
C'est-à-dire que si tu viens de monter ta première boîte, que tu sors de ta petite école de commerce et que tu vas demander à Michel-Édouard Leclerc, bon, il va nommer un mec dans ses équipes s'il est sympathique avec toi ou
j'ai
il va juste t'ignorer. Non.
Parce que moi, tu sais que la dernière fois, j'ai acheté des yaourts et la promo n'est pas passée voilà. En caisse. Donc, je l'ai contacté pour savoir si c'est parce que c'était quand même 10% et je n'ai pas eu de réponse.
Et ben voilà. Michel, si tu nous écoutes.
T'as géchant.
Voilà. I'm done. C'est ce que j'ai retenu, moi, de ce livre-là, que je vous encourage à lire. Alors, je ne sais pas s'il existe en français, mais je redonne les refs. Think Like a CEO et de Byron Morrison.
Et si toi, de ton expérience, tu devais donner un conseil, parce que tu as été CEO quelques années quand même, ça fait depuis combien de temps ?
Un peu plus de 25 ans.
Voilà, donc en 25 ans, quelle leçon t'as apprise et tu pourrais donner aux gens, la plus importante ?
En fait, j'ai un peu piqué dans ce livre, les sujets dont on a parlé là sont ceux qui me parlent le plus. Donc je pense que les extraits que j'ai pris pour qu'on en discute dans ce podcast sont ceux qui me semblent les plus importants. Je pense que quand on te nomme comme CEO, tu as tendance naturellement à vouloir avoir beaucoup de réponses à plein de sujets, alors qu'en réalité, il faut avoir beaucoup de questions et aller sonder l'expertise de ta boîte. Mmh. Si ta boîte ne sait pas répondre à tes questions, c'est que tu n'as pas les bons experts. Il faut vite virer et changer des gens. Parce que quand tu interroges ta propre boîte dans son domaine d'expertise, si elle ne fait pas des réponses claires, c'est que tu n'as pas les bonnes équipes. Mmh. Il faut... Je pense qu'il y a un truc qui, moi, m'a toujours beaucoup animé. C'est faire exister l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Et je pense que c'est un sujet très important. Et c'est un peu comme la confiance. Ça se gagne par goutte et ça se perd par litre. Et chacun de tes moves, chacune de tes décisions doivent démontrer que tu veilles à l'intérêt général, pas à l'intérêt particulier. T'es pas là pour faire plaisir aux gens que t'aimes bien. T'es pas là pour promouvoir les gens avec lesquels tu t'entends le mieux, etc. Non, t'es là pour veiller à l'intérêt général. Et des fois, l'intérêt général, il implique de prendre des décisions difficiles qui sont pas populaires. Mmh. Ton job n'est pas d'être populaire. Là, je le dis souvent et on l'a déjà dit dans ce podcast, mais une boîte n'est pas une démocratie. C'est pas démocratique comme processus. Donc, il faut être à l'aise avec ça. À certains moments, tu vas prendre des décisions qui sont pas populaires. Ta boîte va grogner. Elle va pas être d'accord avec toi. Jusqu'à ce que ça démontre des faits. Et si les faits te donnent raison, eh ben, tu vas pouvoir mesurer l'intelligence de tes équipes à rester braqué ou à constater que finalement, c'était pas totalement idiot.
Et les solutions visionnaires sont toujours impopulaires.
Tu crées pas dans le consensus. Donc c'est aussi un autre élément qui me vient à l'esprit immédiatement. Et puis t'entourer de gens brillants. C'est-à-dire vraiment tous les jours aller au bureau en te disant « Putain, j'ai hâte de les retrouver. Mmh. J'ai hâte de retrouver la puissance intellectuelle de ces gens-là. »
C'est ce que tu te dis, on est au bureau.
Alors c'est ce que je me dis avec les équipes Influx, avec les talents, ça dépend des jours.
Ok, trop intéressant.
Mais moi en tout cas, je te remercie Manuel parce que grâce à toi, et en ayant échangé beaucoup avec toi pendant tout ton parcours de CEO et encore aujourd'hui, j'ai appris que je ne voudrais jamais être CEO.
Et moi, j'en profite pour annoncer que Manuel Diaz est désormais le CEO de ma boîte. Voilà,
ah bon,
ça vient de se signer. Oui, tu vas le signer juste
d'accord,
après le podcast.
Okay.
Salut.
La bise.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.